La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Contrairement sans doute à ce que laisse penser l'usage intensif du vocable « image », les mots sont d'assez loin la matière première principale de la politique. Plus que jamais maîtrisés sans doute par les locuteurs, ils n'en révèlent pas moins, vu de loin, vu en masse, des réalités politiques beaucoup moins contrôlées. Pour la première fois, une chercheuse a mené l'enquête sur les discours des candidats à une élection présidentielle et publié ses résultats avant même l'élection. Cécile Aldu est l'invitée aujourd'hui de la suite dans les idées. Cécile Aldu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature à l'université de Stanford. Vous êtes aussi chercheuse associée au CVPOF à Sciences Po. Et vous publiez aux éditions du Seuil ce qu'ils disent vraiment les politiques pris au mot. Alors on se souvient que vous aviez publié il y a 2 ans maintenant,
oui,
un livre sur les discours des Le Pen, père et fille, et que vous aviez travaillé à une comparaison de ces deux types de discours pour voir en quoi ils étaient différents et en quoi ils étaient semblables à certains égards. Vous avez eu l'envie de prolonger au fond l'enquête. Je rappelais que vous êtes au départ une littéraire, vous travaillez sur des siècles qui sont assez éloignés de l'actualité contemporaine, mais vous avez mis à profit un certain nombre de techniques, de méthodes sur le discours, sur une matière complètement différente, qui est la matière politique, et là, en l'occurrence, celle d'une campagne présidentielle. Donc vous avez élargi votre enquête, au-delà du Front National, à l'ensemble des candidats. Et la nouveauté de ce livre, parce que ça fait un moment que des chercheurs, depuis les années au moins 60 en France, que des chercheurs travaillent sur le discours politique à la faveur des campagnes électorales, mais l'originalité de votre travail, c'est que vous avez voulu, au fond, produire les résultats d'une enquête, et donc un livre en pleine campagne, avant que l'élection soit achevée, pas 2 ans plus tard pour qu'on regarde, mais pour que les électeurs aussi puissent s'en saisir, puisque pour mettre dans le débat public, au fond, les résultats de cette enquête. Alors ça vous a conduit à faire des choix, et à faire des choix dans une élection compliquée, parce que l'offre politique, plus sans doute qu'à d'autres élections, a mis du temps à se décanter, pourrait-on dire. Elle est restée incertaine avec les affaires concernant François Fillon, par exemple. Les primaires ont réservé les surprises que l'on sait. Donc, évidemment, il y a un léger décalage. Mais malgré tout, la plupart des participants à cette élection se retrouvent dans votre enquête. Il y a un grand absent qui est Benoît Hamon, parce que vous êtes intéressé à François Hollande, qui était plus probable, probablement, au moment où vous avez fait vos choix. Mais au fond, ce qui va m'intéresser aujourd'hui dans l'émission, c'est d'une certaine façon de vous proposer de, sur la base de ce que vous avez fait, non seulement de nous donner ces résultats, mais en quelque sorte les actualiser légèrement, Cécile Aldu. Je voudrais qu'on commence par la façon dont vous avez travaillé. Il y a à la fois, comme pour le livre sur les Le Pen, des éléments quantitatifs, des éléments d'analyse de la récurrence des mots, mais aussi des éléments qui tiennent davantage à des formes, je dirais, littéraires, à la rhétorique, au style. Vous avez choisi d'utiliser tout ces modes d'approche pour essayer de comprendre en quoi les candidats se singularisent les uns des autres par des discours politiques assez distincts.
Oui, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une approche à la fois globale et fine, c'est-à-dire de prendre de très gros corpus. Il y a 2,5 millions de mots quand même pour traiter de ce sujet des discours des candidats.
Et là, il faut des ordinateurs.
Et là, il faut des ordinateurs, des logiciels très perfectionnés, des humanités numériques, ça existe. Et ça, c'est un outil, en fait. C'est un outil moderne qui nous permet d'objectiver des intuitions premières qui sont parfois fausses et d'avoir des surprises aussi dans les résultats. Mais ces outils ne nous donnent que des quantités, à la fois des fréquences ou des spécificités lexicales ou des environnements de mots autour de certains concepts. Il faut les analyser et les interpréter. Et c'est là que le travail d'analyse littéraire, finalement, il fait ça naturellement. L'interprétation des textes, c'est exactement ce qu'on fait quand on est professeur de littérature ou de sémiotique. Donc, la combinaison des deux approches permet de donner quand même des résultats objectifs aux citoyens qui a besoin de choisir sur des bases qui ne soient pas idéologiques ou partisanes, mais aussi de décrypter le sens du discours. Donc c'est pas simplement dire Jean-Luc Mélenchon est celui qui parle le plus de peuple ou de gauche, mais aussi de voir comment ça s'inscrit dans son discours, quelles sont les stratégies politiques derrière et l'idéologie sous-jacente de chacun des candidats.
Juste un mot encore méthodologique, quel corpus vous avez retenu?
Oui.
Parce que c'est vrai que on ne parle pas de la même façon selon que l'on s'adresse à des militants très mobilisés en face de soi dans un meeting ou selon que l'on est invité dans un grand média à s'adresser à un public beaucoup plus large.
Alors, il y a d'abord une définition chronologique. Moi, j'ai pris tous les discours, blogs, interviews de 2014 jusqu'à 2016. Et pour chacun des candidats, j'ai récupéré une grande variété de textes pour pouvoir, dans un second temps, distinguer les rhétoriques selon qu'on est en meeting ou selon qu'on est face à la presse nationale, etc. Donc, ça comprend à la fois des discours en meeting très, très mobilisateurs qui s'adressent à des sympathisants, mais aussi des entretiens presse, des communiqués de presse, des interviews radio, des interviews télé, etc.
Alors, vous le disiez, au fond, ce que l'on voit, quand on regarde simplement au-delà des occurrences, des mots, mais les liens qui s'établissent, ces logiques discursives, ce que l'on voit, ce sont des stratégies qui sont mises en œuvre par des candidats. Mais il n'y a pas que ça. Il y a derrière ou en dessous, en quelque sorte, pourrait-on dire, de ces stratégies conscientes mises en œuvre, et c'est ce à quoi on s'emploie quand on essaye de faire un bon discours, il y a des choses qui, quand on regarde en masse, quand on regarde de beaucoup plus haut, échappent au contrôle des candidats. C'est-à-dire que probablement qu'on peut contrôler sa parole, mais jamais complètement. Et le vocabulaire, le lexique qu'on utilise, on peut travailler à avoir des éléments de langage. Mais malgré tout, de manière un peu irréductible, au fond, on continue de puiser dans un vocabulaire à soi. Et c'est ça aussi que vous arrivez à faire apparaître, au fond, à côté des stratégies ou en dessous des stratégies discursives.
Oui, bah alors en littérature, on a parlé de l'inconscient du texte, c'est-à-dire au-delà du sens explicite, au-delà même de la maîtrise du style, il y a un sous-texte, sous-jacent, qui révèle des obsessions, qui révèle des saillances, des thématiques ou des métaphores qui l'emportent sur les autres. Donc, par exemple, François Fillon, au-delà de sa stratégie de se mettre en scène comme ce pèlerin qui va sillonner les routes de France, son discours est imprégné d'une rhétorique d'inspiration religieuse. La foi est citée, mais au-delà de ça, il y a une sorte de parabole qui transcende tous ces discours, celle que les derniers seront les premiers, et donc ça tombait bien pour lui qui était à 3% dans les sondages à l'époque. Et il y a tout un vocabulaire de la religiosité, de la spiritualité aussi, de la morale au sens classique du terme qui apparaît. Et ça, c'est pas dans la stratégie explicite. C'est plutôt ce qui, malgré lui, sort de sa bouche, finalement, inconsciemment ou automatiquement.
Avant qu'on en vienne au cas particulier de certains de ces candidats, que vous nous expliquiez un petit peu les résultats de votre enquête sur ce corpus de textes pour chacun d'entre eux, peut-être vous pourriez replacer cette élection de 2017 dans une série historique. Vous dites au début de votre livre que probablement à certains égards, l'élection d'il y a 10 ans, en 2007, a marqué une forme de rupture dans le rapport au storytelling en particulier, aux histoires, aussi dans le fait par exemple de raconter ou de mettre en œuvre des histoires qui manifestement étaient en décalage avec un certain nombre de faits. Et je pense en particulier à ce tour de force au fond qu'aura réussi Nicolas Sarkozy en se présentant comme le candidat de la rupture alors même qu'il avait été étroitement associé au mandat du précédent président. Et c'est vrai que quand on sait que les logiques d'alternance jouent un rôle décisif dans la plupart des démocraties occidentales et en France aussi, cette élection-là marque une exception puisque la droite était au pouvoir et bon, il y a eu une période de cohabitation à un moment, mais quand même, Nicolas Sarkozy a réussi à gagner une élection.
En son alternance de droite après la droite.
Voilà. Et ça, il y a réussi par une stratégie discursive, rhétorique qui a réussi à faire admettre une réalité discursive qui était pour le moins éloignée, je dirais, de la réalité historique.
Tout à fait. Alors, 2007, c'est un tournant à plusieurs titres. D'abord, parce qu'il y a une pipolisation de la politique qui
se met en
place.
Oui, parce qu'il y a Ségolène Royal aussi en face.
Il y a Ségolène Royal en face. Donc c'est la première fois qu'il y a vraiment cette mise en scène de la personne à travers un storytelling qui est censé adouber le candidat en lui disant c'est l'homme du moment pour cette élection. Et aussi cette sorte d'autonomisation du discours par rapport à la réalité biographique ou politique. Avec donc Nicolas Sarkozy qui se place en candidat de l'alternance alors qu'il vient du gouvernement sortant. Et ça, on le retrouve un petit peu cette année avec cette idée de l'anti-système et du système. Tous les candidats, alors que pour nombre d'entre eux, ils incarnent à la fois les politiques qui ont été mises en place dans les 10 voire 20 dernières années et certains d'entre eux sortent du gouvernement, se positionnent par le discours uniquement en tant qu'anti-système. Et ça, c'est très très remarquable dans cette élection, cette espèce de déconnexion entre ce que disent les candidats qu'ils sont et ce que qu'on peut lire dans leur fiche Wikipédia, pratiquement.
Alors, justement, je disais tout à l'heure, il y a un grand absent, c'est Hamon, puisque vous avez fait le parti de Hollande, mais j'ai oublié d'ajouter, il y a un deuxième absent qui est Emmanuel Macron, puisque comme vous aviez fait le choix de Hollande, finalement, cette candidature n'étant pas advenue, elle est en quelque sorte remplacée par deux options différentes.
Et là, on retrouve, en fait, c'est très intéressant, parce que Emmanuel Macron, donc j'ai pas pu l'intégrer tout simplement parce qu'il n'était même pas encore candidat lorsque j'ai à la fois bouclé mon corpus et mon texte, et il s'est déclaré en novembre, c'est-à-dire extrêmement tardivement, et il n'avait jamais parlait en son nom propre en tant que président, il habitait simplement ministre de l'économie.
Et oui, donc ça n'aurait pas eu de sens de prendre un corpus.
On ne pourrait pas comparer. En fait, voilà. Moi, mon approche, elle est comparative. L'idée, c'était de pouvoir comparer et faire ressurgir les différences par comparaison. Mais maintenant que Hollande donc, s'est désisté à la dernière minute et que je peux analyser à l'aune de ses discours Emmanuel Macron remplit la case François Hollande. Il la pousse à l'extrême, d'une certaine manière, notamment d'un point de vue purement rhétorique, qui est cette idée de la synthèse permanente dans la même phrase. Il y a toujours cette petite conjonction et en même temps. C'est-à-dire qu'on va dire « je suis pour la liberté et la protection sociale ». Et cet effort, cette stratégie
de synthèse... Quitte à assumer même l'oxymore, enfin,
exactement.
C'est pas seulement la
et
nuance.
Et de droite
c'est...
et de gauche. Alors, il y a même une impossibilité logique. D'un point de vue purement linguistique, dire « je suis et de droite et de gauche », soit on vide ses signifiants du moindre sens, soit ça ne veut rien dire.
C'est n'importe quel philosophe logicien,
exactement,
face à une phrase comme ça, nous dit « elle ne veut rien dire ».
Je suis et A et B, ça ne veut rien dire si A et B sont des opposés, absolument. Alors là, comme on est littéraire, on dit « oui, mais en poésie, on arrive à faire des oxymores, effectivement ». Mais en politique, le sens est important, en tout cas devrait l'être. Et c'est vrai que cet effort de synthèse qui ne dit pas son nom en plus, parce que maintenant la synthèse a mauvaise presse, aboutit à piocher dans les corpus lexico et idéologiques des deux camps de la même manière que François Hollande, président, avait été amené à le faire. Et quand je relis les discours de François Hollande, et même la manière dont il a mis en avant à la fois les entreprises et la sécurité et la l'égalité, donc il a fait du Macron avant Macron, mais sans être audible et sans l'expliciter.
La nouveauté aussi, c'est que Macron ajoute quelque chose. On aurait pu penser qu'il s'inscrive naturellement dans cette filiation que vous venez de montrer. Mais il dit non, je suis en rupture.
Je suis l'alternance,
je suis la nouveauté. Je n'ai rien à voir avec François Hollande. Il le dit pas comme ça, mais ouais. Ça revient pratiquement à ça, ce qui est quand même énorme. Ça ressemble beaucoup à Sarkozy en 2007 dont nous parlions à l'instant. C'est-à-dire, alors face à ça, Benoît Hamon à la mutualité, à cette référence, pour le coup, littéraire, et cinématographique très forte en disant mais Macron c'est le guépard, Lampedusa, le film de Visconti, c'est-à-dire il faut que tout change pour que rien ne change. Donc c'est le discours qui opère.
Il y a une sorte d'efficacité du verbe là, c'est presque, on a beaucoup parlé du côté télévangéliste de Emmanuel Macron, il y a aussi cette idée du verbe qui est efficace, je le dis donc ça est, c'est Dieu qui fait advenir les choses par le verbe, et finalement une sorte de force de conviction et de prophétie autoréalisatrice en annonçant qu'on est neuf. Et la forme même du discours, la forme de sa candidature est neuve, donc il y a un élément de preuve formelle sur cette nouveauté qui cache une sorte de mensonge sur le contenu.
Au une sens continuité des politiques publiques en particulier.
Exactement. Le programme d'Emmanuel Macron reprend énormément de choses de celui de la politique de François Hollande. Et même dans la forme du discours, c'est aussi cette mise en avant des entreprises comme le fer de lance de la relance économique comme François Hollande, la grande surprise en analysant François Hollande, c'est que c'est la personne qui utilise le plus le mot entreprise et compétitivité, qui ne sont pas exactement dans le vocabulaire de la gauche classique.
Alors, si on s'intéresse à d'autres candidats, peut-être on peut s'arrêter un moment sur celle sur laquelle vous aviez déjà travaillé, Marine Le Pen. Est-ce que de ce point de vue, les choses ont évolué? Son discours a pu évoluer au cours des deux dernières années, ou est-ce que vous avez constaté au fond une grande permanence?
Il y a la permanence, c'est cette idée qu'il faut toujours être sur cette ligne de crête entre radicalité et normalisation. Et elle joue du chaud et du froid selon les périodes. En période électorale, notamment pendant les régionales, elle a eu un discours d'extrême droite décomplexé, très très virulent, très radical. C'était juste après d'ailleurs l'éviction de Jean-Marie Le Pen, donc il fallait endosser ce rôle. Et puis, dès le 1er janvier 2016, c'est la stratégie de la France apaisée.
Et même du silence.
Et du silence radio. Donc, en 2015, je crois qu'elle avait fait 18 ou 20 discours. En 2016, 4. Donc, elle s'efface, ce qui est la meilleure stratégie pour ne rien dire qui fâche et pour lisser son image. Et avec cette présidentialisation, en essayant de tenir un discours au-dessus des polémiques, en s'extrayant des 20 débats.
Ce que vous aviez montré dans le livre précédent, c'était que, au fond, il y avait des formes d'euphémisation dans les discours, mais que le contenu des discours restait entre la fille Le Pen et le père Le Pen, la même chose. Il y avait évidemment une volonté de mettre en avant par du storytelling cette idée que le Front National serait normalisé, dédiabolisé, comme on dit. Toute chose assez contestable, où on voit que finalement ça dépend à qui il parle, ça dépend quand il parle.
Oui, alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette dédiabolisation, elle ne touche que des phénomènes très circonscrits. Ça touche essentiellement l'antisémitisme. Et d'ailleurs, là, il y a eu des révélations sur des élus frontistes qui ont eu des propos négationnistes. Ils sont immédiatement éliminés. Par contre, les propos islamophobes...
Ou racistes.
Enfin, il n'y en a pas vraiment explicitement racistes, en tout cas au sens de racisme biologique, la couleur de peau, etc. Ça, mais l'anti-islamisme, l'anti-islam, ça marche, il n'y a pas de problème. La dédiabolisation, pour Marine Le Pen, c'est une stratégie à double tranchant parce que elle revendique quand même d'avoir un discours très ferme, même plus que ferme, contre l'immigration et l'islam. Donc, ce qu'elle fait très très bien, c'est de prendre les valeurs de l'adversaire, le féminisme, la laïcité, pour les retourner contre une cible unique qui est les immigrés d'origine musulmane.
Alors là, par exemple, puisque vous vous intéressez au mot, on peut s'arrêter sur un mot. Le mot laïcité a été totalement vidé de tout son sens, transformé, trituré. Enfin, je veux dire, on parle plus du tout de la même chose. Ce qui conduit un certain nombre de candidats, je pense à la réponse faite par Benoît Hamon lors du débat, le premier débat entre candidats, où il a dit la loi de 1905, rien que la loi de 1905. C'est-à-dire, revenons finalement à une définition juridique pour essayer de trouver une sorte d'accord ou de désaccord. Mais
c'est très intéressant parce que la laïcité avait été un petit peu abandonnée par la gauche parce que embarras sur les populations immigrées d'origine musulmane, qu'est-ce qu'on fait, comment on gère. Et puis, parce que Marine Le Pen a réinvesti ce créneau, cette année, ils se sont sentis obligés de construire un discours qui redéfinisse le terme. Et ça, c'est une première étape pour redonner donc du sens à ce terme. Mais effectivement, j'ai fait une enquête pour le CVPOF sur ce mot laïcité. Qu'est-ce qu'il évoque aux électeurs? Un panel de 15 000 personnes, les réponses qui reviennent, c'est, je ne sais pas, compliqué, difficile ou bien... aucun signe religieux dans la rue. Ce qui est la vision du Front National de la laïcité. Donc ce mot a été brouillé.
Et ce qui n'est pas du tout la définition juridique.
Du tout. Ça n'a rien à voir avec la définition juridique de la séparation de l'Église et de l'État. Ce mot a été abîmé d'une certaine manière et peut-être que cette élection sera l'occasion de le redéfinir, ne serait-ce qu'en repartant du constat juridique de qu'est-ce que dit la loi.
Alors, il y a un candidat que vous avez pu intégrer à votre corpus, parce qu'on savait depuis longtemps qu'il était candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon. Qu'en est-il de ses discours? Qu'est-ce que vous avez découvert en vous intéressant à cette parole politique-là?
Jean-Luc Mélenchon, il a un côté très attrayant pour un littéraire parce que son style est à la fois unique, très imagé, très riche. C'est un écrivain qui manie le style noble et le style populaire. Mais au-delà de ce style chatoyant, il y a des constantes idéologiques. Et d'abord, je pense qu'on peut le placer dans la catégorie du populisme. D'ailleurs, il s'en réclame explicitement. Mais alors, il faut définir qu'est-ce que c'est que ce populisme pour le distinguer d'autres types de populisme, comme celui de Nicolas Sarkozy ou de Marine Le Pen. Et c'est là que les ambiguïtés affleurent, parce que, de toute évidence, Jean-Luc Mélenchon a une définition du peuple qui est politique. C'est le peuple souverain qui va faire cette assemblée constituante et changer le régime. Et c'est un peuple au sens de catégorie populaire, délaissée, les sans voix. Mais une autre personne dans le champ politique utilise ce mot de peuple toutes les cinq minutes, c'est Marine Le Pen. Ce sont les deux candidats qui l'utilisent le plus. Et elle ajoute une nuance de sens qui est une nuance ethnique. C'est le peuple français, sous-entendu français, né de français depuis des générations, ancré et non pas d'origine étrangère. Et du coup, quand on se met du côté de la réception de ce discours populiste, ce sont les mêmes mots qui sont utilisés chez Marine Le Pen, chez Jean-Luc Mélenchon.
Même la revendication du populisme, par
exactement.
Exemple.
Exactement. Et aussi cette critique des castes, des élites,
du système,
etc. Et même de l'oligarchie, ils reprennent ce même mot d'oligarchie. Et du coup, du point de vue de la réception, on peut se dire qu'un électeur qui n'a pas analysé 1300 discours va entendre ce mot qui a été un peu abîmé par le Front National. Et derrière le peuple, et ce peuple français que revendique Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il n'y a tout de même pas une ambiguïté fondamentale à construire son discours sur un antagonisme binaire, le peuple et les élites, avec dans cette structure manichéenne le risque de tous les dérapages. Dans le premier débat entre candidats sur TF1, Jean-Luc Mélenchon a fini son allocution en disant qu'il voulait rendre la France aux Français contre les oligarchies. Rendre la France aux Français, c'est un autre, une sorte d'élément de langage qui a une longue histoire chez Jean-Marie Le Pen. Et j'ai été très surprise qu'il reprenne sans précaution cet élément de langage. Et je dirais que c'est l'ambiguïté constante de Jean-Luc Mélenchon 2017. C'est-à-dire, en voulant élargir son électorat, il s'adresse bien sûr aux catégories populaires qu'il veut reconquérir, mais en ne faisant pas toujours la pédagogie de ce qu'il désigne par le peuple. Et ça prête à ambiguïté, notamment dans ses propositions contre les travailleurs détachés.
On peut lire par exemple dans son programme un point qui s'appelle « Lutter contre les causes des migrations » dans lequel il explique qu'il faut évidemment mener des politiques de développement dans des pays pauvres, etc. Mais dont l'objectif est que chacun reste chez soi, grosso modo.
Oui.
Ce qui renvoie un petit peu à ce que vous disiez de sa conclusion du premier débat entre candidats. Mais on trouve aussi chez Mélenchon des éléments qui renvoient à une conception très traditionnelle des organisations politiques.
Oui, alors c'est l'homme le plus politique. Son discours est truffé du vocabulaire de la vie politique. Les élections, les alliances constituent des majorités au sein des organes partisans, les acronymes de tous les partis politiques. Aucun autre présidentiable ne parle autant de la politique politicienne, en fait. C'est vraiment un homme de parti, mais qui essaie de se dégager des partis. En même temps, c'est intéressant parce que les autres candidats de la droite et de la gauche, eux, ont un discours très économique. C'est une autre tendance de fond du discours politique, ce tropisme économique où l'économie prime le politique. Et ça, c'est valable pour Fillon, pour Juppé, pour Macron, pour Hollande, un peu moins pour Benoît Hamon peut-être. Et de l'autre côté, on a Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui ont un discours extrêmement politique, qui remettent du politique dans la discussion.
Alors Benoît Hamon, justement, vous venez de prononcer son nom. Vous n'avez pas pu travailler comme pour Emmanuel Macron sur ses textes parce que vous ne pouviez pas deviner qu'il allait être le candidat. Donc, comment néanmoins, au vu de manière sans doute plus intuitive, hein, moins appuyée sur une enquête, comment vous appréciez au fond son discours, ses discours politiques? Qu'est-ce qui caractériserait au fond Benoît Hamon dans son rapport à la langue, aux mots?
Alors, ce qui est particulier dans le discours de Benoît Hamon, c'est premièrement une posture qui n'est pas une posture de vérité et de leader charismatique, mais au contraire d'humilité et de proposition d'idées à débattre. Ce qui est très différent des postures très virilistes et combatives des autres candidats qui se positionnent en tant que combattants par le discours pour gagner les suffrages.
On verrait plus de nous et moins de je, probablement.
Probablement, et aussi même une sorte de ton très modeste qui n'est pas dans l'affirmation péremptoire, mais qui admet ses propres inquiétudes, ses propres doutes. Et en plus de cette posture, un choix de vocabulaire très ancré à gauche, à la différence et de François Hollande et même de Jean-Luc Mélenchon, qui par exemple n'utilise pas beaucoup le mot « égalité » et encore moins les mots « solidarité » et « fraternité », ce qui est assez surprenant. Et c'est, d'une certaine manière, en raison de son discours populiste qui insiste plus sur l'opposition peuple-élite. Et Benoît Hamon, lui, il a repris le mot « égalité », le mot « social » et le mot « écologie ». Le mot « social » avait presque disparu du discours de gauche pendant le quinquennat. Donc il a repris tous ces grands marqueurs idéologiques et lexicaux qu'attendaient probablement les électeurs de gauche lors de la primaire de la Belle Alliance Populaire.
Là, il y a une rupture en termes de discours par rapport à François Hollande, dont vous disiez tout à l'heure que le mot « entreprise »,« entreprendre », ces mots étaient très présents dans ses discours de président.
Tout à fait. François Hollande candidat avait ce discours de gauche et François Hollande président s'est aligné pratiquement sur le discours d'Alain Juppé. C'est-à-dire que quand on compare les deux, ils sont extrêmement proches. Ils utilisent presque autant, dans les mêmes proportions, le vocabulaire économique, surtout le discours entrepreneurial. Et comme Alain Juppé lui-même s'est déplacé vers le centre avec son identité heureuse, il s'intéresse autant à la laïcité, à l'égalité.
Peut-être une dernière question, Cécile Alduit. Le rôle des médias dans tout ça. Vous parliez tout à l'heure de la laïcité. On a le sentiment, en vous écoutant, en vous lisant, que finalement, ce sont davantage les acteurs politiques qui font ce travail de changement de sens des mots, ces passages en force sur le vocabulaire, bien plus que les médias. Mais que les médias, finalement, n'opposent pas tellement de critiques et de résistance à ces transformations. Est-ce que ça veut dire qu'ils devraient davantage... Alors, on a vu se mettre en place du journalisme de décryptage, de décodage, qui est très important, qui concerne les faits. Mais peut-être faudrait-il aller sur le terrain des mots aussi, s'agissant de ce type de journalisme.
Oui, absolument. Et alors, l'autre, il y a d'une part cette sorte d'inertie dans la réception par les médias des discours des candidats, c'est-à-dire un manque de réplique. Et c'est très, très remarquable par rapport à Marine Le Pen, qui peut dire tout ce qu'elle veut sans être reprise. Et cette obsession des faits, alors qu'il faudrait aussi du, non pas du fact-checking, mais du meaning-checking, qui n'a pas vraiment été fait par les médias. Mais j'aimerais aussi insister sur le fait que les médias ont aussi un rôle dans la manière dont ils saucissonnent les discours des candidats et donc empêchent de repérer le sens des mots.
Ça, c'est le grand, grand mérite de votre enquête, outre ces analyses précises, c'est que vous prenez un recul qui permet véritablement d'observer ces discours dans leur entièreté, dans leur globalité, d'entrer après dans les détails. Vous jouez sur les échelles, ce que, évidemment, le rythme quotidien des médias ne permet, hélas, pas souvent de faire. Merci beaucoup,
merci.
Cécile Alduit. Je rappelle le titre de ce livre passionnant, « Ce qu'ils disent vraiment, les politiques prises au mot ». Il paraît aux éditions du Seuil. Vous trouvez cette référence bibliographique sur la page de l'émission La Suite dans les idées, sur le site de France Culture, une page où vous pourrez réécouter autant de fois qu'il vous plaira l'émission et sur laquelle vous pouvez également vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Catherine Donnet, à la technique, Manuel Couturier, à la réalisation, Jean-Christophe Francis. Et c'est Étienne Klein et la conversation scientifique que vous retrouvez tout de suite sur l'antenne de France Culture.